l'Institut donc théologie réformée charismatique. Je vous encourage vraiment à vous inscrire, à suivre les cours, et en particulier sur le premier semestre là de septembre qui va arriver, il y a un cours, tu l'as cité, sur création-évolution. Et je voudrais vraiment vous encourager à le suivre, en particulier les jeunes, les étudiants, les jeunes. Création-évolution, ça pose pas mal de questions avec ce qu'on apprend à l'école, avec ce qu'on entend, ce qu'on lit dans la Bible, avec ce qu'on entend dans les églises, avec toutes sortes de questionnements. Et c'est un enseignement qui va être vraiment super. C'est Thierry Grézin, donc celui qui nous a fait les cours d'hébreu cette année, qui va le donner. Il est prof d'histoire-géographie et c'est un passionné d'archéologie et de tout ce qui est en lien avec la création. Et donc, il va donner ce cours qui est vraiment, il nous a, lors de nos derniers cours d'hébreu, il nous a mis l'eau à la bouche. Et je voudrais vraiment encourager notamment les jeunes. Alors, ce n'est pas 100 heures, hein, je pense que c'est quand même moins, parce que c'est 2 heures tous les 15 jours pendant à peine 6 mois. Donc, ça fait 25-30 heures à peu près, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment très intéressant. Tu as mis où la zapette ? Ah, merci. Tu peux afficher si tu veux le PowerPoint. Il y a 15 jours, j'ai fait un message concernant le Père et le Fils. En reprenant ce que les pères de l'Église en ont dit au premier concile œcuménique, qu'on appelle comme ça, ça veut dire international, mondial, le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, et en explorant aussi ce que la Bible en dit. J'avais fait remarquer que parfois notre piété personnelle ou notre piété collective, ainsi qu'un certain nombre de nos chants, ne sont pas tout à fait en adéquation avec l'enseignement des Écritures et avec celui des pères nicéens. Notre piété glissant parfois d'un christocentrisme à un christo-exclusivisme, où le Père est souvent le grand oublié de l'histoire. Lui qui est pourtant la source du Fils et le but vers lequel nous tendons à la suite du Fils et vers lequel le Fils est le seul chemin. Nous avions vu que le Père est la source du Fils et non l'inverse, et qu'ils ne sont pas interchangeables. Je n'avais pas précisé quelque chose qui me semble important que j'ajoute ce matin, c'est que j'ai remarqué que lorsque le Père est présent dans nos prières ou nos paroles prophétiques, on le résume parfois à une sorte de papounet bienveillant, et à une dimension donc assez émotionnelle, qui, si elle est vraie, car il est juste de considérer que le cœur du Père, de notre Père, est avant tout un cœur aimant, c'est cependant loin de représenter la réalité, la globalité de la dimension glorieuse, mystérieuse et incompréhensible du Père dont nous avons parlé. Après mon message, que je vous encourage donc à écouter si vous n'étiez pas là il y a 15 jours, ça pourra faire le lien avec le message d'aujourd'hui, Henri a dit que ce message appelait une suite. Alors, ce n'était pas du tout prévu, cette suite, mais concours de circonstances fait que je suis amené à parler aujourd'hui, que je fais donc une suite. Sous-entendu, écoute, tu nous as parlé du Père et du Fils, mais qu'en est-il du Saint-Esprit ? Où est-il ? Et donc, l'opportunité m'est donnée aujourd'hui de proposer une suite. En fait, il y a au moins deux raisons pour lesquelles je n'ai pas parlé de l'Esprit-Saint dans mon premier message. La première, c'est que pour ce qui concerne les déclarations, les phrases que nous formulons dans notre piété, il est important de rappeler la place centrale du Père. Il était important de rappeler la place centrale du Père dans la théologie et dans les prières de la Bible, Ancien comme Nouveau Testament. La deuxième raison, c'est que les pères du Concile de Nicée, concile dont nous fêterons, je le rappelle, les 1700 ans l'an prochain, on fait la même chose concernant le Saint-Esprit. Je voudrais vous rappeler trois formulations majeures qui ont été employées à Nicée Les deux premières, ah oui, j'avais... Ça, c'est un petit peu de géographie. Je vous ai rappelé le nom des cinq... Alors ça, c'est des choses qu'on n'étudie pas et que, voilà, parce que c'est pas dans la Bible. On croit que, en fait, c'est majeur parce que c'est dans, lors de ces conciles que la foi a été posée, la théologie a été posée. Et j'ai souvent l'habitude de dire qu'on croit être des chrétiens bibliques, mais souvent on est des chrétiens plutôt nicéens que bibliques, en fait. Et donc il y a eu quatre conciles très importants. Il y en a eu d'autres par la suite, bien sûr. Et donc ces conciles ont eu lieu, vous voyez, dans cette zone, en Asie mineure, dans l'actuelle Turquie. Donc le premier à Nicée, le deuxième à Constantinople, le troisième à Éphèse et le dernier à Chalcédoine. Vous voyez, tout ça en Turquie, dans l'actuelle Turquie. Alors je voudrais rappeler... trois formulations qui ont été employées. Donc, les deux premières, nous les avons vues dans le message il y a 15 jours. Nous croyons, voilà, nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de toutes les choses visibles et invisibles. On en a parlé longuement la dernière fois. La deuxième formulation, c'est et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, on avait parlé de ces phrases un peu complexes, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non fait ou non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, ce qui est au ciel et sur la terre, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu, s'est incarné, s'est fait homme, a souffert, et ressuscité le troisième jour, et monté aux cieux, et viendra de nouveau juger les vivants et les morts. Les pères avaient beaucoup de choses à dire sur Jésus. Et la troisième formulation, donc vous voyez que le Père et le Fils sont décrits selon un ordre et selon leurs attributs particuliers dans l'unité. Et voilà la troisième formulation majeure qui a été dite à Nicée. Et au Saint-Esprit. Point. Nous croyons en un seul Dieu, le Père, etc. Nous croyons en un seul Seigneur, etc. Et au Saint-Esprit. C'est tout ? Oui, c'est tout. Les pères nicéens n'ont rien trouvé d'autre à écrire, ou plutôt n'ont pas jugé utile de dire plus sur le Saint-Esprit. Ce n'est que 56 ans plus tard, donc au concile de Constantinople, et face au développement de certaines hérésies, que des précisions concernant le Saint-Esprit seront ajoutées au credo. Face notamment à ce qu'on appelle l'hérésie pneumatomaque, ça vous pouvez l'oublier, il n'y aura pas d'interro écrite là-dessus. En fait, c'est une hérésie qui refusait l'idée de la divinité du Saint-Esprit, qui est alors considérée comme une créature du Père, et donc tenu pour inférieur à Dieu, et au service du plan du Père pour la création. C'est en gros, à la louche, la doctrine des témoins de Jéhovah sur le Saint-Esprit. Déjà, la simple évidence va contre cette hérésie. Dire que l'Esprit de Dieu est inférieur à Dieu est un non-sens, en fait. C'est comme si vous disiez, par exemple, imaginez-vous dire « Ah oui, l'Esprit de Joël est inférieur à Joël ». Ça sonne faux, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui a été ajouté à Constantinople? Donc, le « et au Saint-Esprit » a été remplacé par cette phrase. Nous croyons au Saint-Esprit, Seigneur et vivifiant, qui procède du Père, doit être adoré et glorifié avec le Père et le Fils, et qui a parlé par les saints prophètes. Voilà ce qui a été ajouté. Alors, je vous propose qu'on reprenne rapidement quelques affirmations là sur le Saint-Esprit. Il nous est dit que le Saint-Esprit est Seigneur et vivifiant. Je vous cite deux versets, on pourrait en citer bien d'autres. 2 Corinthiens 3:17, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. » Ce verset nous dit clairement que l'Esprit de Dieu est Seigneur. Et dans le contexte du chapitre de Corinthiens, cela signifie qu'il est Dieu. Dans sa conversation avec Nicodème, Jésus lui annonce qu'il doit naître de nouveau. C'est-à-dire que Nicodème doit recevoir une vie nouvelle. Et que lui dit-il ? Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est dans Jean 3. Il affirme ainsi que c'est l'Esprit Saint qui fait naître de nouveau et qui nous donne la vie divine. Si Dieu habite en nous, c'est parce que le Saint-Esprit nous l'a donné, cette vie. Il le confirme à Capernaum en parlant à ses disciples. Il leur dit, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est Jean 6, 63. Donc le Saint-Esprit est Seigneur et c'est lui qui donne la vie. Il nous est dit que le Saint-Esprit procède du Père. En grec, le mot procéder, c'est un peu compliqué. En fait, je ne vais pas vous le dire en grec, mais ça signifie sort, en fait. Procéder, c'est-à-dire tire son origine. Donc le Saint-Esprit tire son origine du Père. Nous avions vu que concernant le Fils, il était dit engendré et non créé, et que cet engendrement était éternel, c'est-à-dire hors du temps, avant la création. Ce qui faisait du Fils non pas une création ou une créature inférieure à Dieu, mais une personne divine. Et bien c'est un petit peu la même chose pour l'Esprit. Il n'est pas dit pour l'Esprit là qu'il est engendré, mais qu'il procède du Père. Donc, comme pour le Fils, le Père est la source de l'Esprit. L'Esprit émane du Père avant la création du monde et donc avant le temps, faisant de l'Esprit une personne divine. Petite parenthèse, je signale pour ceux qui connaissent ces choses que je n'entre pas ici dans la discussion concernant le filioque qui viendra plus tard dans l'histoire de l'Église et qui sera un point de rupture majeur entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, l'Église catholique et les Églises orthodoxes. Cette rupture a lieu vers l'an 1000. Ainsi, Fils et Esprit trouvent leur source dans le Père de toute éternité, avant que le temps n'existe. J'ai trouvé une belle image pour illustrer cela chez un théologien orthodoxe. Je dis bien que c'est une image. Lorsqu'on ouvre la bouche pour parler, deux choses sont nécessaires. Articuler des mots et souffler pour que cette articulation devienne audible. Si je ne fais qu'articuler, qu'il n'y a pas de souffle qui passe sur les cordes vocales, il ne se passe rien. Si je ne fais que souffler, sans articuler des mots, il ne se passe pas grand-chose non plus. C'est un petit peu l'image du Père qui parle, et en parlant, il prononce les paroles, c'est le Fils, et il souffle, c'est l'Esprit. On a deux passages pour illustrer ça. Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça, c'est le Fils, dès les origines. Et dans Genèse chapitre 1, on connaît bien ces textes, versets 1 et 2, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà l'Esprit dès les origines. Donc on a la parole, le Fils dès les origines, et l'Esprit dès les origines. Et le Fils et l'Esprit sont les agents de la création du Père. On voit que le Fils et l'Esprit sont très liés. On pourrait presque dire qu'au moment de la création, ils sont très intriqués, collaborant dans l'œuvre de la création par le Père. C'est d'ailleurs remarquable que la tradition hébraïque déclare que l'Esprit de Dieu qui planait au-dessus des eaux, c'est l'Esprit de Mashiach, l'Esprit du Messie. Une autre formulation, le Saint-Esprit a parlé par les prophètes. J'ai dit que c'est un petit peu la même chose pour l'Esprit qui vient du Père comme pour le Fils, dans le sens où l'Esprit trouve sa source dans le Père, mais il y a cependant de grosses différences. D'abord, si le Saint-Esprit est l'Esprit du Père, il est aussi l'Esprit du Fils dans les Écritures. Jésus est en effet né de Marie par le Saint-Esprit. Il a été revêtu du Saint-Esprit, envoyé sur lui par le Père lors de son baptême. C'est aussi par le Saint-Esprit que Jésus est parmi nous aujourd'hui. La présence de Jésus parmi nous, c'est le Saint-Esprit. En parlant des prophètes, Pierre, l'apôtre, va dire que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Cette parole nous dit que les prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, qui ont prophétisé, l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile, les apôtres, par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Donc les prophètes, Pierre nous dit qu'ils prophétisaient parce que l'Esprit de Christ était en eux, et les apôtres ont prophétisé, ont annoncé l'Évangile par l'Esprit qui était en eux aussi. C'est ce même Saint-Esprit, celui des prophètes, celui de Jésus, celui des apôtres, qui vit en nous si nous sommes nés de nouveau. Il donne la vie. Il nous revêt quand nous sommes baptisés de l'Esprit. Une autre affirmation, il nous est dit que le Saint-Esprit doit être adoré et glorifié avec le Père et le Fils. Alors ce morceau de phrase rajouté à Constantinople doit être bien compris à la lumière de la parole. En fait, cette formulation, elle a été dite contre les contradicteurs qui faisaient du Saint-Esprit une simple force, la force agissante de Dieu, ou une créature du Père inférieure. Cette formulation affirme donc ici une union, une solidarité d'honneur et de gloire de l'Esprit Saint avec le Père et le Fils. Alors on peut se poser la question, comment manifester cela dans notre piété personnelle? Parce que tout ce que je pose là comme base, bien sûr, le but c'est très concret. Ce n'est pas de la théorie pour remplir nos têtes, nos intelligences. Comment manifester ça dans notre piété personnelle? Que dit la Bible à ce sujet? Les pères nous disent ça, mais comment ça se met en pratique? Qu'est-ce que dit la Bible à ce sujet? Nous avions vu que le modèle biblique, là, il y a 15 jours, de la prière, le modèle biblique des Écritures, c'est prier Dieu le Père, au nom du Fils, par le Saint-Esprit. Et c'est encore la même chose ici. L'Ancien et le Nouveau Testament disent la même chose concernant l'Esprit. Ainsi, si dans les Écritures, on voit beaucoup l'Esprit parler, et qu'on retrouve souvent l'expression « l'Esprit dit » ou « le Saint-Esprit dit », par exemple comme dans Acte 13, « le Saint-Esprit dit », ou dans Apocalypse 22, 17, « l'Esprit et l'Épouse disent ». Donc l'Esprit parle beaucoup dans les Écritures. On ne retrouve en revanche jamais dans la Bible une personne qui parle à l'Esprit Saint ou qui le prie. Ça n'existe pas. Donc si nous le faisons, il faut savoir que ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible et que ça ne doit pas devenir une norme, une habitude, voilà, quelque chose qui devient une évidence. Il y a peut-être une seule exception à ce que je viens de dire, et comme on le sait, les exceptions confirment la règle. On trouve un texte dans Ézéchiel 37, verset 9, qui dit, c'est Dieu qui dit à Ézéchiel, il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise fils de l'homme et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. C'est le seul endroit dans les Écritures où on voit Dieu demander à un homme, alors non pas de prier, non pas d'adorer, mais de prophétiser à l'esprit. C'est une prophétie. D'ailleurs, je corrige la traduction, enfin je corrige, la traduction de Second que j'avais l'habitude de connaître et où il est dit « prophétise et parle à l'esprit ». En fait, quand on regarde dans l'hébreu et quand on regarde les autres traductions, il n'est pas dit « parle à l'esprit ». Il est juste dit « prophétise à l'esprit, prophétise fils de l'homme ». Dans ce texte, Ézéchiel n'est pas appelé à prier ou à louer l'esprit, mais à prophétiser à l'esprit. Et il s'agit ici d'une vision prophétique, pas d'un événement concret qu'Ézéchiel met en pratique de son propre chef. Alors il y aurait encore énormément de choses à dire sur l'esprit. Mais je voudrais m'approcher de la fin en rappelant quelle est l'action de l'esprit. En sachant que l'action de l'esprit, c'est aussi l'action du Père et du Fils. L'esprit appelle. En Actes 13, 2, le Saint-Esprit dit, vous voyez qu'il parle, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Saint-Esprit dit, « Je les ai appelés. » L'esprit appelle. Si vous êtes devenu chrétien, c'est parce que vous avez entendu cet appel de l'Esprit. Votre cœur, votre esprit a entendu cet appel de l'Esprit. Et comme vous avez répondu, eh bien l'Esprit donne la vie, on l'a déjà vu. Jean 6, 63, c'est l'Esprit qui vivifie. Si vous êtes né de nouveau, c'est le Saint-Esprit en vous qui l'a fait. L'Esprit baptise. Nous immerge, nous revêt. C'est le Père et le Fils qui envoient et qui nous baptisent de l'Esprit. Jésus dit, je vous enverrai un autre consolateur. Donc l'Esprit console, conforte, réconforte. Il sanctifie le Saint-Esprit. Dans Romains 15, 16, étant sanctifié par l'Esprit Saint. C'est lui qui fait en nous cette œuvre qui nous fait marcher vers la sainteté. Être sanctifié, vous savez ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire être pur, ça veut dire être mis à part. C'est l'Esprit qui nous met à part pour Dieu et pour l'œuvre à laquelle nous sommes appelés. Le Saint-Esprit rappelle tout ce que Jésus a dit et fait. Si on peut connaître Jésus et l'œuvre de Jésus, c'est par l'action de l'Esprit. Par la Bible, évidemment, mais la Bible éclairée par l'Esprit. Il intercède pour nous, Romains 8, 27. L'Esprit, par des soupirs inexprimables, fait monter la prière. Ainsi, lorsqu'on reçoit l'Esprit, on peut manifester le fruit du Saint-Esprit. Galates 5, 22 nous dit que le fruit du Saint-Esprit en moi, en nous, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est le fruit. Et un fruit, vous savez, on le dit souvent, un fruit, on n'a pas besoin de tirer dessus pour qu'il pousse, j'allais dire une blague mais qui n'a pas sa place, de faire ce qu'il faut pour le faire mûrir. Non, Le fruit pousse, mûrit de lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il est branché à la sève. C'est ce que Dieu fait en nous par le Saint-Esprit. Toute cette œuvre d'amour, de joie, de paix, de patience, qui correspond complètement, n'est-ce pas, à notre caractère à chacun. L'amabilité, la bonté. Si vous décrivez votre frère, votre sœur à côté de vous, vous allez dire ça, n'est-ce pas ? La douceur, la maîtrise de soi. Comme quoi le fruit ne cesse pas d'avoir besoin de grandir et de mûrir. Et puis, il n'y a pas que le fruit de l'esprit. Il y a aussi, bien sûr, les dons du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit. À chaque fois, il répète cette redondance, l'Esprit, l'Esprit, l'Esprit. À un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le Saint-Esprit veut nous confier des dons, que nous manifestions des dons. En conclusion, je dirais que je pense que le privilège du chrétien, c'est vraiment d'attendre, de rechercher et de chérir la présence du Saint-Esprit dans nos vies personnelles et dans nos réunions. Le Saint-Esprit manifeste la douce présence de Dieu. Et je pense que c'est important de chérir cette présence de l'Esprit, mais aussi de la rechercher. L'Écriture nous dit qu'on peut rechercher. Comment on peut rechercher la présence de l'Esprit ? Par la louange et le chant. Dans 1 Samuel 16 à 19, on voit que la présence de Dieu se manifestait quand David prenait sa guitare, j'allais dire, et louait Dieu. Et à ce moment-là, le mauvais esprit de Saül partait. L'Esprit venait, le mauvais esprit partait. On l'a aussi dans Acte 2, à la Pentecôte. Ils sont dans la prière, ils sont dans la louange, et le Saint-Esprit vient. Donc par la prière, dans 2 Chroniques 7, je vous lis ces versets à partir du verset 1, « Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant « Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Donc Salomon inaugure le temple, il prie une prière magnifique et la réponse c'est que l'Esprit vient, la gloire de l'Éternel vient. En hébreu, la Shekhinah comme on dit parfois, la présence de Dieu par l'Esprit vient et se manifeste, un petit peu comme il y aura à la Pentecôte, par des manifestations visibles aussi. On l'a aussi, par exemple, cette attente de l'Esprit et cette manifestation de l'Esprit dans un contexte de prière, dans Acte 4. Acte 4, vous savez, c'est les disciples qui ont été persécutés, et puis on leur a interdit, on les a libérés, mais on leur a interdit de parler de Jésus. Et ils rentrent, ils se mettent dans la prière. Ils disent, quoi qu'il arrive, on continuera Dieu à parler. Et il nous est dit que de nouveau l'Esprit est venu. Comme en Acte 2, l'Esprit est venu dans ce contexte de prière. Et puis bien sûr, Pour inviter l'esprit à venir, une des meilleures façons, c'est la proclamation de l'évangile. On en a un beau texte dans les Actes, au chapitre 10, chez Corneille. Pierre va chez Corneille sur l'indication de l'esprit. Il se met à parler, il annonce l'évangile, et avant même qu'il ait fini et qu'il ait eu le temps de faire son appel à venir au pied de la croix, l'esprit vient. L'annonce de l'évangile et la foi qui est reçue fait que l'esprit vient et baptise de l'esprit toute cette maisonnée et ils se mettent à parler en langue, etc. Voilà, je pense que c'est important de savoir que dans le chant, la louange, d'où l'importance de nos chants et de la louange, dans la prière et dans l'annonce de l'évangile, eh bien, c'est les meilleures façons pour que l'esprit soit à l'œuvre au milieu de nous. Alors, je fais un petit post-scriptum par rapport au sozo, parce que tout ce que j'ai dit là, il y a 15 jours et tout ce que j'ai dit aujourd'hui peut, pour ceux qui connaissent le sozo, poser soulever des questions. Sozo, c'est un outil de guérison et de délivrance qui utilise les concepts de Père, de Fils et de Saint-Esprit, avec différents critères pour amener une personne à manifester la présence de Dieu au sein d'une situation problématique ou traumatisante du passé et à rencontrer Dieu dans cette situation pour en guérir. Le sozo n'est pas un modèle de piété collective ou personnelle. C'est une façon d'appliquer à une personne qui vit un sozo différentes caractéristiques qui sont attribuées au Père, au Fils et au Saint-Esprit, en vue de l'amener à la résolution d'un problème. Je crois donc personnellement que le sozo est un outil parfaitement utilisable, même s'il ne répond pas aux critères bibliques que j'ai décrits dans ces deux messages. Habituels, ces critères habituels de piété, de louange, de prière, mais c'est un temps de guérison intérieure, c'est autre chose. Voilà, je voulais juste faire cette parenthèse pour ceux qui connaissent le sozo. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas un souci. Vous pouvez oublier ça, mais c'était important de le dire et de le signaler. Voilà, je voudrais vous inviter à prier. Seigneur, merci. Merci mon Dieu, parce que ta parole est la vérité, c'est ta parole que nous voulons suivre. Notre Père, nous sommes heureux que tu te sois révélé à nous en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons vivre de cette intimité avec toi, notre Père. Entrer dans ta maison, vivre dans ta maison, goûter les délices de ta maison, voir ta face. Seigneur, nous avons faim et soif de toi. Merci de nous conduire sur le chemin de la vérité. Merci de nous renforcer, d'affermir notre foi. Merci d'enraciner notre foi. Merci de nous amener dans une piété toujours plus biblique qui t'honore, qui est selon la vérité. Seigneur, nous avons besoin de toi au quotidien. Et Seigneur, nous avons besoin que tu renouvelles, comme tu avais envoyé l'Esprit en acte 2 et que tu l'as renvoyé en acte 4. Seigneur, nous avons besoin, et en acte 10, etc., nous avons besoin que tu nous remplisses de ton esprit. Nous avons besoin que cet esprit fasse son œuvre en nous et au milieu de nous et au travers de nous. Merci pour le privilège incroyable de ce que l'esprit du Dieu vivant, l'esprit de Christ, vient habiter en nous. Seigneur, c'est toi qui nous donnes cette dimension céleste. C'est toi qui nous donnes cette dimension qui dépasse notre intelligence, qui dépasse ce qu'on peut même comprendre. Et nous voulons être un peuple reconnaissant et des enfants qui t'aiment, notre Père. Au nom de Jésus, Amen.